La femme a été trop souvent victime de la domination masculine au sein d'une culture marquée par une dimension très inégalitaire des rôles de l'homme et de la femme. Et c'est en réaction à cela que des mouvements de contestation féministe sont nés. Malheureusement, s'il y avait une juste réaction à avoir vis-à-vis des erreurs du passé, ces mouvements ont été aussi le vecteur d'une pensée blessante pour l'identité de la femme. L'égalité dans la dignité humaine signifierait aussi l'égalité dans l'identité sexuelle. Ainsi, l'homme et la femme, pour être égaux, pour avoir les mêmes droits, devraient être semblables jusque dans leur identité sexuelle. Dans cette approche, pour affirmer leur égalité, de nombreuses femmes se sont mises à suivre des modèles masculins, puis plus récemment, des modèles neutres, androgynes, sont apparus. Et le cardinal Ratzinger a écrit une lettre au nom de la Congrégation pour la doctrine de la foi avant de devenir le pape Benoît XVI, c'était en 2004, sur les rapports entre les hommes et la femme dans notre société contemporaine. Et je m'appuierai beaucoup sur ce document dans cette intervention. Et donc il dit, pour éviter toute suprématie de l'un ou de l'autre sexe, on tend à gommer leurs différences. Ainsi, notre société véhicule une indifférenciation sexuelle de plus en plus marquée. Par exemple, dans les publicités Kenzo, c'est le même top modèle qui présente les vêtements pour hommes ou pour femmes. Mais l'indifférenciation est aussi de mise dans l'éducation des enfants, des garçons ou des filles. Et puis, on considère de nos jours que les rôles du père et de la mère pourraient être parfaitement interchangeables. Est-ce qu'il n'y a pas là une terrible perte de l'identité masculine et féminine? La question s'aggrave aujourd'hui avec la théorie anglo-saxonne du gender, du genre en français, qui a fait son apparition officielle à la conférence de Pékin organisée par l'ONU en 1995. Selon cette théorie, l'être humain naîtrait avec une identité sexuelle neutre. Il n'y aurait pas de sexe masculin ou féminin. Le donné biologique ne signifierait plus grand-chose. Mais la personne choisirait elle-même, sous l'influence de données personnelles et socioculturelles, son identité sexuelle selon 5 genres. Alors, il y aurait le genre hétérosexuel masculin, homosexuel masculin, hétérosexuel féminin et bisexuel. Vous voyez l'évolution. L'homosexualité et l'hétérosexualité sont ainsi mises sur le même plan, avec des conséquences très importantes sur la famille, évidemment. Et vous savez qu'aujourd'hui, il devient possible pour des couples homosexuels, dans plusieurs États, d'adopter des enfants. Ça change quand même beaucoup de choses dans notre société. Actuellement, il y a une promotion du gender dans les politiques éducatives de plusieurs pays occidentaux, comme par exemple la Belgique ou l'Espagne. Dès leur plus jeune âge, en milieu scolaire, les enfants devraient être préparés à choisir eux-mêmes leur genre de sexualité future. C'est ainsi que toutes les pratiques sexuelles pourraient être justifiées du moment que les personnes sont consentantes. Mais tout ceci ne semble pas faire le bonheur plaigné des personnes humaines et nombreux sont les témoignages de violences et de souffrances qui découlent de ces pratiques. En 1995, à cette fameuse conférence de l'ONU sur la femme à Pékin, Mère Teresa de Calcutta a adressé un message, et je vais vous en lire différents passages tout au long de ce parcours, mais en voici un.